Et voici venue l'heure du LEM, la quotidienne de Transistor du lundi au vendredi, avec un nouvel épisode de nos émissions sur l'adaptation au changement climatique en partenariat avec les petits débrouillards Grand Ouest. Et aujourd'hui, il y aura de l'eau, parfois trop. On verra comment prévenir le risque inondation dans le bassin versant de l'Aulne.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans le magazine, dans l'émission LEM tout simplement, l'émission qui se projette dans le Finistère du futur, même s'il nous arrive aussi de creuser le passé. Aujourd'hui, on retrouve notre émission mensuelle avec les Petits Débrouillards Grand Ouest, une association qui met les sciences à portée de tous et de toutes. Les sciences, c'est vaste. Dans cette émission, ce sont plutôt les sciences de la vie et de la terre, puisque le thème, c'est l'adaptation au changement climatique, thème général. Une fois par mois, les Petits Débrouillards viennent avec des professionnels, des scientifiques, différentes actrices et acteurs liés à cette adaptation au changement climatique pour qu'on soit préparé plutôt que stressé. Aujourd'hui, on retrouve Geneviève Canivin qui est responsable de l'antenne Quimper, des Petits Débrouillards, et elle est accompagnée de Clémentine Gézékel qui est chargée de mission inondation, animation du PAPI de l'Aulne. Alors, le PAPI, c'est Programme d'action de prévention des inondations. Elle travaille pour l'EPAGA, l'établissement public qui gère l'eau du bassin versant de l'Aulne. Voilà, vous devinez le sujet. Il pleut beaucoup cet hiver, ça déborde. Ce n'est pas la première ni la dernière fois. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Geneviève, un petit rappel sur cette adaptation au changement climatique.
Déjà, on va peut-être parler de ce que le changement climatique fait sur ce qu'on appelle les régimes pluviométriques.
Par exemple.
Alors, le régime pluviométrique, déjà, c'est quoi ? C'est la routine selon laquelle l'eau va arriver chez nous. Ça peut se faire de plein de façons différentes, avec une fréquence, avec une intensité. Et donc, les régimes pluviométriques en Bretagne sont en train de changer. C'est déjà à l'œuvre et je pense qu'on peut s'en rendre compte de façon de plus en plus sensible. Et donc, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui va nous arriver ? Ça, on le sait déjà. En tout cas, il y a pas mal de modèles qui le prévoient. Et donc là, je peux renvoyer nos auditeurs et nos auditrices à une excellente page de l'Observatoire Environnement Bretagne. Donc, c'est sur bretagne-environnement.fr qui fait un petit point là-dessus. Et donc, qu'est-ce que disent les modèles ? Ils nous disent qu'on va avoir, en moyenne, moins 26% en été. Donc il va pleuvoir moins. Et ils vont nous dire aussi qu'il va pleuvoir en moyenne plus 14% en hiver.
Donc, saison sèche, saison humide. Enfin, pour caricaturer. Et c'est un peu ça, la tendance.
Ça commence à ressembler à ça, ouais. En effet, et au-delà de pleuvoir plus en hiver, il y a également la question de pluie de plus en plus intense. C'est-à-dire qu'on n'aura plus notre doux crachin habituel.
On l'aura peut-être quand même, mais
on l'aura. Pas que. Mais on va avoir de plus en plus fréquemment des épisodes de pluie intense et donc qui amènent des cumuls importants en peu de temps.
À 60 mm, on a eu là récemment.
Oui, voilà, par exemple.
Enfin, c'est vrai que c'est. Voilà, et puis il n'y a pas que nous, évidemment, mais bon, là, on est dans le Finistère. Et dans le Finistère, et on est en plus particulièrement sur le territoire du bassin versant de l'Aulne et de l'Yerre, vaste territoire. Clémentine Gézékel, donc l'EPAGA gère tout ce territoire, gère plusieurs questions liées à l'eau et notamment les inondations. Alors déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée de ces particularités à ce bassin versant par rapport à la question des inondations ?
Oui, il faut savoir que ce bassin versant, c'est un bassin versant très rural, il est très étendu, l'Aulne prend sa source dans les monts d'Arrée. Et arrive pour se jeter dans la rade de Brest au niveau du Foulan des Vénèques. On a seulement 3 ou 4% de la surface qui est urbanisée, mais ça n'empêche pas les phénomènes de ruissellement d'être importants, puisqu'on a une très grande surface et avec des zones agricoles qui peuvent, elles aussi, donner lieu à du ruissellement, même s'il est moins important qu'en territoire urbain.
Oui, parce qu'un champ cultivé, enfin en tout cas de manière intensive, c'est pas, certes pas du béton, ça ruisselle pas autant, mais ça ruisselle plus que quand c'est juste, une prairie, c'est ça ?
Oui,
En gros, même s'il n'y a pas que des champs cultivés dans les monts d'Arrée. Hein. D'accord. Et donc, il y a ce ruissellement, mais il y a aussi la géographie. C'est un peu un régime torrentiel, les rivières, c'est ça ?
C'est aussi un bassin versant. En tout cas, les rives de l'Aulne sont très encaissées, puisqu'on est... On a au nord les monts d'Arrée et au sud les montagnes noires. Et donc, on va avoir des pentes importantes qui font que l'eau s'écoule assez vite vers la rivière. Il y a une grande partie de l'Aulne qui est canalisée à l'aval, entre en gros Châteauneuf et Port-Launay. Des habitations qui sont réparties le long des rives du canal, puisque pour des raisons historiques, c'était un bassin de vie et de commerce, d'échange. Donc en fait, la population s'est installée dans ce qu'on appelle le lit majeur du fleuve, c'est-à-dire qu'en temps normal, en période d'étiage... Parce qu'en c'est l'été, la rivière, elle est dans son lit, dans son cours habituel. Et dès qu'il pleut un peu plus, le phénomène naturel, c'est que le fleuve s'étend dans sa zone d'expansion, le lit majeur.
C'est connu pour la Loire, par exemple. Mais enfin, tous les fleuves ont des lits majeurs, en fait. Plus ou moins étendus. Celui de l'Aulne est particulièrement étendu, le lit majeur de l'Aulne ?
Il est quand même assez encaissé du fait de la topographie.
Alors, les zones inondables sur notre bassin versant, donc c'est le long du canal ou il y a d'autres zones ? Enfin, c'est quoi en gros ?
C'est surtout le long du canal et on a aussi des zones au niveau de ce qu'on appelle notre bassin versant. On prend aussi en compte les petits fleuves côtiers sur le nord de la presqu'île de Crozon qui se jettent dans la Rade. Donc on a aussi des zones exposées à la submersion marine sur les communes de Landévennec, du Fou notamment. Et on a le phénomène du ruissellement qui, là, concerne vraiment tout le territoire. Ce qu'on appelle le ruissellement, c'est lorsqu'on va être affecté par des pluies intenses sur une courte période de temps. Donc,
ça fait déborder les
cours d'eau plus petits.
Ouais. Et donc, puis le système d'évacuation des eaux pluviales aussi, parfois il y a des remontées.
Oui, ça peut être lié au fait que les réseaux pluviaux sont saturés, mais ça peut aussi arriver... à cause de simplement de débordements de fossés sur une route qui vont ensuite arriver sur une habitation ou bloquer une route à cause de la quantité d'eau qui a coulé.
Et si on fait un peu le schéma, les prototypes de types d'inondations, qu'est-ce qu'il y a comme type d'inondation ?
Donc du coup, justement, il y a les inondations fluviales. Donc là, c'est quand c'est tout le bassin versant qui va réagir et qui va faire que l'Aulne déborde de son lit.
Débordement,
on
ok.
On a la submersion marine. Donc là, ça peut être lié, par exemple, à des grandes marées qui sont concomitantes à des pluies importantes. Ça va probablement être le cas demain sur les zones en bord de mer. Donc avec les exutoires des eaux pluviales qui vont avoir du mal à
s'évacuer,
dans l'eau de mer. Et puis on a le ruissellement donc pour le pluvial pur qui ruisselle et qui peut affecter des habitations plus isolées sur le territoire.
Est-ce qu'on a eu à Morgate il y a quelques jours, là, c'était pas de la submersion marine, parce que c'était pas des grandes marées, mais c'était vraiment
c'était
un débordement
plutôt,
du ruisseau
du
local. Quoi.
Du ruissellement, ouais. Et du ruissellement. Vous avez ouais. Évoqué les 60 mm qui sont tombés en 48 heures. À Morgate, c'était même 70 mm en 48 heures. Donc là, c'était un épisode de pluie tel que les réseaux ne pouvaient pas le gérer, avec en plus des exutoires en bord de mer qui forcément ne peuvent pas tout évacuer si la marée est haute.
Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est dans une zone à risque grâce à l'EPAGA, Clémentine Chézéquel ?
Alors grâce à l'EPAGA et grâce en fait à des dispositifs nationaux. Hein. Par exemple, si vous voulez savoir si votre habitation est à risque d'inondation, vous pouvez aller sur le site Géorisque où vous tapez votre adresse et ça va recenser tous les risques naturels et technologiques auxquels vous êtes potentiellement exposé. Et où est-ce que ça prend les informations ? Principalement pour les inondations, dans les plans de prévention des risques d'inondation. Puisque nous, sur le bassin versant, on a plusieurs plans de prévention des risques, notamment celui qui couvre la zone de Port-Launay, Châteaulin, Saint-Coulis, et celui plus à l'amont qui va couvrir la zone de Pont-Coblanc, à Plébin et Châteauneuf-du-Fou.
Et le PAPI, c'est les actions qu'on mène, c'est pas un plan de prévention,
non,
hein, c'est pas la
PAPI,
même chose.
Non, le PAPI, c'est un dispositif qui permet en fait aux communes et aux habitants de bénéficier d'aides pour mieux se protéger face aux inondations. Donc ça nous permet, nous, de faire de la prévention, de la sensibilisation, et aussi d'intervenir si les habitants nous appellent pour voir comment ils peuvent adapter leurs biens, et si les élus font appel à nous pour de la formation par rapport notamment à la gestion de crise.
Donc, géorisque au pluriel .gouv.fr. Et d'ailleurs, les petits débrouillards ont un wiki débrouillard aussi qui travaille avec ce site, c'est ça?
Oui, effectivement. Donc, on a mis en ligne sur un site wiki débrouillard. Dans votre moteur de recherche préféré, vous allez le trouver tout de suite. Beaucoup d'activités autour de l'adaptation au changement climatique. Et il y en a notamment une qui utilise le site Géorisque. Et c'est une activité qui consiste à faire du diagnostic de risque naturel dans un lieu bien précis. Donc on peut le mener autant dans une école, avec un groupe d'enfants, dans la rue, avec des habitants.
Ah oui, on se promène, on va à un endroit et puis on regarde le portail pour voir si on est en risque.
Alors, on commence déjà par faire des mesures, notamment pour voir, c'est une chose que d'être dans un lieu bien précis, mais en fonction de comment le lieu est aménagé, ça ne va pas manifester la même chose. Si le sol est imperméabilisé, artificialisé, évidemment, ça fait grandir les risques.
Ça ruisselle.
Voilà, c'est ça. On peut faire aussi des relevés de température. Donc là, ce n'est pas du tout pour le risque inondation, ça va être plutôt pour le risque îlot de chaleur. Et puis, comme ça, en rassemblant des informations de différentes sources, d'une part de mesures, mais aussi en s'appuyant sur le site Géorisque, on peut élaborer un diagnostic du lieu et ensuite commencer à réfléchir à des solutions.
Sinon, Clémentine Gézéquel, il y a aussi l'application Vigicru, au pluriel, également.
Oui, alors ça, c'est plutôt pour s'informer en temps réel quand la météo est exactement comme aujourd'hui, cas d'école, où les sols sont déjà bien saturés en eau, puisqu'il a plu beaucoup là, sur ce début d'année 2026. On a une météo qui a été très pluvieuse la semaine dernière, un peu de répit, et puis là, ça repart pour plusieurs jours d'affilée. Et Vigicru, c'est un site qui permet d'observer les débits et les hauteurs d'eau à différentes stations le long de l'Aulne, notamment l'Aulne canalisée, pour les riverains de cette partie du territoire. Et ça permet de voir les tendances, c'est-à-dire est-ce que les niveaux augmentent. On peut croiser ça avec la météo si on habite en zone inondable. Et quand Vigicru passe en vigilance jaune ou orange, à ce moment-là, il y a même des prévisions qui sont calculées grâce à un modèle hydraulique et qui peuvent même permettre à par exemple 24 heures de voir si on risque d'être affecté par l'inondation. Alors toujours à prendre avec des pincettes, le modèle, mais avec un peu d'expérience, déjà en connaissant les niveaux à partir desquels on est inondé, en suivant bien la météo, on peut se préparer et réagir.
Et ils ne nous téléphonent pas quand même, Vigicru, non? Ils n'appellent pas les zones inondées pour dire attention?
C'est vraiment aux gens de consulter l'application. Et les communes sont quand même très impliquées parce qu'elles aussi, bien sûr, suivent Vigicru quand la météo est comme ça. Et si on est abonné à des services comme Citicomi, l'application de la CCPCM, Intramuros, je crois, à ce moment-là, souvent, les communes préviennent du niveau de vigilance et ça permet de se dire « Ok, je vais regarder Vigicru un peu plus souvent ces jours-ci et surveiller ce qui se passe ».
Et sinon, plus en amont, on va dire, pour savoir si on est à risque, l'EPAGA peut proposer un diagnostic inondation.
Oui, en amont d'une inondation, vous voulez dire?
Oui, c'est ça, en amont, bien sûr, de l'événement, avant même qu'il n'ait plus...
Disons que, en fait, quand on identifie qu'on habite en zone inondable, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va se passer si un jour, il y a trop de pluie et que mon bien, il est impacté? Et est-ce que je vais avoir des dommages, perdre mes meubles? À ce moment-là, le mieux, c'est de faire intervenir l'EPAGA, puisque grâce à ce programme dont on parlait, le PAPI, on réalise des diagnostics des habitations qui permettent d'évaluer combien d'eau on aurait pour un certain niveau de crue. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur la crue centennale, c'est-à-dire qu'il y a...
Mais qu'est-ce que ça veut dire, une crue centennale?
On dit qu'il y a une chance sur 100 qu'elle se produise chaque année, plutôt un risque sur 100 qu'elle se produise chaque année. Et c'est une forte crue qui peut nous arriver jusqu'ici, la crue la plus forte qu'on a connue, c'était décembre 2000. La crue centennale, elle est plus importante que ça.
Ouais.
Et ce qu'on fait, c'est qu'on a des modèles qui ont évalué combien d'eau il y aurait sur tous les points du territoire qui sont inondables pour cette crue-là. Donc si notre maison elle est en zone inondable, on va venir chez l'habitant, et on va lui dire, regardez, on a fait une modélisation et on sait qu'il y aurait par exemple 50 cm d'eau au niveau du pas de votre porte pour cette crue-là. Donc ensuite, on est chez les personnes et on regarde quels sont les enjeux, c'est-à-dire ce qui est a le plus de valeur dans la maison et qu'il faut essayer de protéger. Donc par exemple, est-ce que va y avoir une chaudière qui est sous la côte de la crue? Est-ce que les réseaux électriques sont rehaussés? C'est souvent le cas sur le bassin versant. La plupart des gens ont des prises électriques à 1 mètre du sol. Est-ce que les matériaux utilisés dans le salon sont par exemple plutôt du carrelage, ce qui fait qu'on est un peu plus résilient quand il y a de l'eau chez nous? Du coup, ça permet un peu d'évaluer ce qu'il y aurait à protéger et de proposer des mesures pour être le mieux préparé possible.
Et juste une petite question technique sur la crue centennale. Le fait qu'elle ait une probabilité de 100 de se produire chaque année, mais est-ce que l'échelle a changé? Enfin, c'est-à-dire, ce qui était une crue centennale il y a, mettons, 10 ans, c'était peut-être moins haut, et maintenant, finalement, on évalue la crue centennale à quelque chose de plus haut.
Enfin, là-dessus, j'ai pas d'éléments précis, mais ouais. Effectivement, avec le changement climatique, on peut s'attendre à ce qu'on ait des crues plus fortes et plus fréquentes, et donc la crue qui avait une chance sur deux de se produire chaque année, finalement, elle se produit maintenant tous les ans, et c'est donc effectivement, une crue centennale devienne plus grande. Dans nos modèles, on prend maintenant en compte les impacts du changement climatique liés à l'augmentation du niveau de la mer, puisqu'on sait que c'est un phénomène qui va pouvoir aller jusqu'à 1 mètre pour, par exemple, des tempêtes sur l'aval du territoire. Sur les régimes pluviométriques dont parlait Geneviève en début d'émission, on n'a pas encore intégré ces modifications.
Mais ça viendra sans doute assez rapidement. Alors les mesures, justement, quand on est en alerte inondation, qu'est-ce qui existe concrètement comme mesure pour prévenir la montée des eaux? Enfin, pas prévenir, mais s'en abriter.
Alors, en amont, donc justement, pour continuer sur ce à quoi servent les diagnostics inondation, nous, on propose d'adapter le bâti à la montée des eaux. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez pouvoir mettre des bâtards d'eau au niveau des ouvertures devant vos fenêtres et vos portes. Donc, c'est des sortes de plaques avec un joint étanche autour qui permet de bloquer l'entrée d'eau.
Qu'on met en bas de sa porte, quoi.
Sous
en
les
fait,
portes,
c'est
voilà.
Ça, ouais.
Sous les portes ou par les fenêtres. On va également bloquer tout ce qui est aération. On va mettre des clapets pour boucher également les arrivées, les sorties d'eau usée pour éviter que l'eau remonte par la grille de la douche ou par les toilettes. Et après, au niveau individuel, quand on sait que la crue approche, on va aussi pouvoir rehausser les meubles qui ont besoin d'être rehaussés, éventuellement déplacer du matériel électronique, parce que plus on est préparé, mieux c'est pour éviter les dégâts dans son habitation.
Ça, Geneviève, il y a des animations, des petits débrouillards pour aménager une maison, c'est ça, des maquettes de maison
En fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, oui.
Ah non,
ça
ne
sera
pas
forcément des maisons en tant que telles, mais je pense par exemple à une activité des fils au monte, où on propose à partir d'un certain nombre de matériel aux participants et participantes de trouver une solution technique pour mettre les habitants au sec et à l'abri. On a également une activité qui est autour de ce qui s'appelle la boîte à risque. Donc ça, c'est... Ouais, ça fait peur. Hein. Donc ce sont des conseils et des suggestions en disant, préparez-vous. Et voici ce que vous devez préparer, ce qui est un tout petit peu austère. On a des jeux et des activités autour de la préparation de ces boîtes à risque qui peuvent être ensuite, évidemment, reproduites à domicile, et qui vont être utiles, mais pas nécessairement que pour les inondations, ça
non.
Peut être...
C'est ce qu'on appelle le kit de survie, c'est ça?
Ouais.
Enfin, on s'est moqué de ça, parce qu'on a cru que c'était des préconisations en cas de guerre, mais en fait non, ces kits-là, ils ont été créés pour des catastrophes naturelles, des inondations, voire des catastrophes industrielles.
Des tempêtes.
Oui, voilà, c'est-à-dire le jour où on n'a plus de courant, plus rien, est-ce qu'on a le minimum, le strict nécessaire avec soi?
C'est exactement ça, oui, avoir un minimum de nourriture, d'eau, c'est super important.
Ben oui. De quoi boire.
Les traitements médicaux. Et également tout ce qui va avoir trait à pouvoir s'informer, même si Internet et le réseau de téléphonie est tombé, donc au hasard, une radio à pile.
Oui, mais tout à fait. On connaît ça. Bon, c'est pas forcément Transistor qui mettra, d'ailleurs, pour le coup, mais bon, si on est inondé aussi, même si on est au premier étage. Clémentine Jézéquel, sinon, il y a aussi sa voiture, tout simplement. Enfin, je veux dire, en dehors de son inondation.
Oui, ça paraît bête, mais une voiture, à partir de 20 à 30 cm d'eau, elle dérive et elle se retrouve potentiellement dans le canal. Donc, on a envie d'éviter ça quand on voit que le niveau des eaux monte. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on repère à l'avance un endroit où on peut garer son véhicule avant de se retrouver bloqué. Sur le kit de survie, ouais, c'est important de l'avoir en tête, notamment aussi les papiers de valeur, les choses administratives qu'on peut avoir à régler au retour à la maison. On parle du retour à la normale après une inondation. C'est important d'avoir ces papiers-là, les papiers d'identité, la police d'assurance, ce genre de choses.
Exactement.
Ouais.
Ouais, après, il y a les... peut-être comment, où est-ce qu'on met ses déchets ou des choses comme ça, non
ouais, bah, quand on revient chez soi et qu'on a subi une inondation, on fait très attention en fait, aux facteurs environnementaux parce qu'on a des eaux souillées en fait, qui ont circulé sur tout le territoire, qui ont potentiellement emporté avec elles des déchets ou des substances toxiques. Donc en fait on se retrouve à jeter beaucoup de choses, on met des gants pour débarrasser et on fait très attention à où on jette ce qui a été abîmé.
Oui, et on essaie de pas oublier aussi. Parce qu'il y a en fait une fois c'est pas parce qu'on a été victime une fois d'une inondation que ça va plus se produire. Au contraire.
Ouais. Là-dessus, il y a un vrai sujet sur la mémoire de la problématique inondation sur le bassin versant, puisque, comme je le disais, la dernière très grande crue qui a été vraiment impressionnante était en décembre 2000. On en a eu ensuite en 2013-2014. Et puis des plus petites, souvent à Noël, hein, en 2023-2024, 2022-2023, mais qui ont surtout touché les personnes directement en bord de canal, dans des zones très précises.
Port-Launay, Pont-Coblanc...
Ouais. Et eux sont habitués, mais les personnes qui ont connu la crue 2000, aujourd'hui, elles sont plus forcément là, elles sont plus forcément sur le territoire. Et les nouveaux arrivants peuvent ne pas avoir conscience de ce risque. Et là-dessus, on essaye de les toucher lorsqu'ils achètent leurs biens, parce qu'ils sont parfois, enfin, on aimerait qu'ils soient le plus souvent possible redirigés vers les PAGA pour faire un diagnostic dès l'arrivée dans la maison. Comme ça, s'ils ont des rénovations à faire, ils peuvent intégrer des travaux qui prennent en compte le risque d'inondation.
Et le diagnostic, il est gratuit d'ailleurs.
Oui, le diagnostic est gratuit. Il est financé. Il est financé à moitié par l'État et à moitié par les PAGA. Il est confidentiel, il n'engage à rien. Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement de faire le diagnostic, c'est bien d'avoir conscience du risque, mais ensuite c'est qu'on peut faire des travaux sur son habitation.
Voilà. On n'a pas parlé encore du financement des travaux.
Ils sont très bien subventionnés, puisque l'État, par l'intermédiaire du fonds Barnier, finance jusqu'à 80% des travaux qu'on va faire sur le bâti. Donc les bâtardeaux, les clapets anti-retour.
Ah oui, même les bâtardeaux, enfin même les objets mouvants sont financés.
Bien sûr, oui. Et ça peut être des choses aussi comme prévoir la réhausse d'une chaudière, ce qui n'est pas anodin en termes de...
Ah non, j'imagine, oui.
Ça, c'est pris en compte. Donc voilà, c'est ce genre de choses.
Et sinon, le diagnostic, ça dure combien de temps? Enfin, vous venez chez les gens, c'est ça?
On reste 30 à 45 minutes. Souvent, c'est l'occasion pour les gens aussi de nous expliquer ce qu'ils ont vécu comme événement. Et donc, ça permet d'échanger aussi sur le phénomène qu'eux peuvent très bien connaître. Et donc, voir si... s'il y a des choses à rajouter sur la manière de réagir, mais c'est quand même assez rapide. Ils reçoivent ensuite le diagnostic et les PAGA, après, peuvent les accompagner pour faire le dossier de demande de subvention. Il faut d'abord demander des devis, évaluer le montant des travaux, sélectionner une entreprise et ensuite demander les montants à la DDTM. On fait une campagne de diagnostic là, début février 2026. On a deux jours de prévu. Il reste quelques places sont intéressées.
Vous arrivez à traiter, entre guillemets, combien de maison d'habitation
En général, on fait entre 8 et 12 diagnostics sur deux jours. On a pu en faire plus sur une journée selon les personnes qui se rajoutaient, qui sera ajouté à la dernière minute.
Et on est sur de l'habitat, mais est-ce que vous intervenez sur des entreprises ou des, je sais pas, des bâtiments agricoles?
C'est un peu différent pour les entreprises, mais on intervient pour les entreprises de moins de 20 salariés. En fait, on considère que les entreprises, enfin, le fonds Barnier considère que les entreprises d'une taille plus importante peuvent se permettre d'engager elles-mêmes des démarches sur ce sujet. Mais dès qu'on est une petite entreprise, et c'est le cas voilà, des restaurants, des artisans qui sont concernés au bord de l'Aulne, on peut intervenir. Le taux de subvention est un peu plus faible. Il y a 40% de subvention sur les travaux. Mais le diagnostic est gratuit.
Et ça, en tout cas, en ce qui concerne les PAGA, ça concerne une très large zone.
Oui, je voulais citer les communes, si vous voulez bien.
Allons-y.
Donc, on part de la zone tout autour de Châteauneuf, Saint-Ouen, Laz, Saint-Goisec. On descend sur la zone de Pont-Coblanc avec Plébin et Goisec. Et on arrive en fait sur la zone de Saint-Coulis, Châteaulin, Port-Launay. Et le bassin versant prend aussi en compte la submersion marine. Donc on a le secteur du Fou. Et la partie nord de la presqu'île de Crozon, du Fou jusqu'à Roscanvel. Et Pont-de-Buy au bord de la Dauphine.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. Cette émission est à réécouter sur le site internet de Transistor, comme toutes celles qu'on a réalisées avec les petits débrouillards Grand Ouest et qui continuent. La prochaine, ce sera le 10 février et on évoquera la formation des personnes pour qu'elles intègrent justement cette question du changement climatique dans leur quotidien avec une association qui est basée à Brest, qu'on connaît bien sur Transistor. C'est le lieu dit. Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.